C'est moi, c'est Lola.
Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles d'Amblique. Auteur Bob Kane, dessinateur 1915-1998, États-Unis. Bill Finger, scénariste 1914-1974, États-Unis. Œuvre Detective Comics numéro 27, 1939. Personnage Batman. Adaptation à la radio, en série télévisée, en dessin animé, en film. Quelques interprètes du personnage de Batman au cinéma, Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, Ben Affleck. Qu'est-ce qu'un super-héros ? Qu'est-ce que ce nom, pour commencer, sinon une gourmandise ? Quand on dit super-héros, c'est bien entendu inutile, puisqu'un héros est un superlatif. Mais, en ajoutant super, on se retrouve comme un enfant qui ajoute des super, des méga et des hypra à tout ce qu'il aime ou d'ailleurs déteste. On n'en peut plus d'aimer, et à l'aide de ces préfixes, on serre dans ses bras à étouffer. Aucun adulte n'a jamais pensé trouver une interprétation de la vie dans les aventures des super-héros. Ils évoluent dans un monde plus brutal et en réalité moins violent que le monde courant, et cela pour une simple raison, c'est un monde manichéen. Les mondes manichéens sont simples, c'est « je te cogne » ou « je te caresse », et il suffit d'éviter les coups, de les prévenir ou de s'en venger. Le monde courant est plein de nuances qui permettent d'infini raffinement de violence qu'on peut beaucoup plus difficilement empêcher. Le premier super-héros a été Superman, apparu aux États-Unis en 1938 dans le magazine Action Comics. Le succès a été tel, des centaines de milliers d'exemplaires vendus, qu'il a eu aussitôt plusieurs imitateurs. Batman a suivi en 1939, la même année sont apparus La Torche, Submariner, puis en 1940, Captain America, Flash Gordon et Captain Marvel. Batman, c'est un homme, et il a cette singularité par rapport à tous les autres super-héros, c'est qu'il n'est qu'un homme, il n'a pas de pouvoir extra-humain. Il a juste un esprit déductif, l'art du combat martial et des gadgets utiles. C'est une sorte de James Bond sans meurtre, puisque, à l'exception de très rares aventures au tout début, il a été décidé qu'il ne porterait pas d'armes à feu et ne tuerait pas. En quoi il est contraire à Superman, avec qui il s'associe au demeurant quelquefois. Ne déduisons pas que, au contraire de ce Superman qui porte sur son costume les couleurs de l'Amérique et est d'un nationalisme très conscient, Batman serait une sorte de contre-héros tout en contradiction, presque un personnage. Il a cette idée excessivement répandue aux États-Unis que la justice n'est jamais mieux rendue que par soi-même. Enfant, il a vu ses parents assassinés et s'est chargé de poursuivre tous les criminels, ce qu'on ne lui demandait pas, ce pourquoi il y a une police. Les Américains, si on peut généraliser ainsi, n'aiment pas l'idée de délégation. Ces rousseauistes votent pour élire leurs juges. Ces rousseauistes portent des armes. Batman, super-héros, est habillé tout en noir. Batman est-il faux chic ? Batman vit dans le noir et attaque la noirceur du monde qui ne s'arrête jamais. Batman est-il nihiliste ? Pour parler de Batman, je reçois Rudy Spicertz, dessinateur et scénariste de bande dessinée, auteur entre autres de la série Naguère les étoiles, dont le scénariste est Hervé Bourris. Il m'a fait l'amitié de dessiner sa version de Batman que vous pourrez voir sur le site internet de l'émission. Rudy Spicertz, à quoi ressemble Batman? Je pourrais presque employer le verbe ressembler au pluriel puisqu'il est double, il y a à la fois l'homme Bruce Wayne et l'homme chauve-souris qui est Batman.
Physiquement, Bruce Wayne est plutôt grand, brun, c'est un mâle blanc américain type, musclé, comme tous les super-héros, la plupart. La mâchoire carrée, en tout cas pour la première version, celle de Bob Kane.
J'ai vu dans un numéro de DC Comics qui était précis qu'il mesure 1m90 et qu'il pèse 95 kilos. J'imagine que ça a pu évoluer dans le temps.
Ah, c'est très précis. Les fans de comics aiment beaucoup les fiches descriptives.
Alors, le dessinateur, qui, je le rappelle, s'appelait Bob Kane, a dit s'être inspiré d'un dessin de Léonard de Vinci, le dessin de l'ornithoptère, qui est, vous savez, la machine qui était en forme d'aile destinée à aider les hommes à voler, et de l'acteur Douglas Fairbanks.
Douglas Fairbanks, ça c'est sûr, l'ornithoptère, ça ressemble plus à une explication a posteriori pour mettre un petit peu de culture dans l'histoire. Batman, il ressemble énormément au costume de Musidora dans Les Vampires de Louis Feuillade, qui date de 1915, quelque chose comme ça. Il ressemble beaucoup aussi à un personnage de méchant qui apparaît dans un film qui s'appelle The Bat, qui date de 1926, je crois. Il y a aussi un peu de Dracula dans le côté créature de la nuit. Enfin, c'est ce qui, à mon sens, fait l'intérêt de Batman, c'est que c'est un gentil dans un costume de méchant. C'est une créature de la nuit, inquiétante, mais qui fait le bien et à laquelle on peut s'identifier quand même. Puis le choix de la chauve-souris comme animal totémique.
D'où ça vient, ça?
Alors, il y a plusieurs explications selon les scénaristes qui régulièrement réinventent les origines de Batman. Généralement, c'est assez bête. Une chauve-souris apparaît à la fenêtre au moment où Batman est en train de s'interroger sur la meilleure façon d'inspirer la peur chez les criminels.
Ou Bruce Wayne.
Bruce Wayne, oui. Bruce Wayne s'interroge.
Et donc là, il y a un choc et il décide de...
Une espèce de choc esthétique comme ça. Il avait peur des chauves-souris étant petit. C'est une créature de la nuit. Or, il a décidé d'opérer uniquement la nuit. Ce qui le différencie vraiment de Superman, par exemple. Qui opère au grand jour et sans masque.
Et vous disiez, c'est intéressant ça, que les scénaristes ultérieurs, puisqu'on continue encore aujourd'hui à produire des Batman et des dessins animés et des films, bien sûr, réinterprètent les origines.
Ah oui, régulièrement, ça c'est très fréquent dans le monde du comics, où des scénaristes vont réécrire l'histoire, garder des grandes lignes, et réinventer l'histoire en la plaçant parfois dans un contexte contemporain, parfois dans le futur. Et Batman se prête très très bien à ça parce que il a un côté vraiment archétypal. On sait peu de choses sur lui. Et c'est un matériau intéressant en soi.
Alors, Bruce Wayne a une famille. On lui connaît un oncle, des fils adoptifs, des fils naturels. Est-ce que c'est si fréquent chez les super-héros, qui me semblent plutôt solitaires, mais je me trompe peut-être?
Il y a des super-héros qui ont une famille. Ils ont souvent des parents assassinés d'ailleurs. C'est devenu une espèce de cliché après Batman. Certains ont une vie sociale. Certains ont des amours contrariés. Parfois des enfants. Je crois que même Hulk a des enfants, ce qui peut paraître assez singulier.
Alors, vous le disiez, Rudy Spicert, Bruce Wayne a subi un traumatisme, et ça c'est fréquent chez les super-héros. C'est peut-être d'ailleurs leur seul point commun avec les héros de tragédie grecque, qui ont aussi subi un traumatisme. Clark Kent, c'est le seul survivant de sa planète natale, et il devient, comme on sait, Superman. Daredevil est aveugle. Mais ça, c'est des fatalités qui s'imposent à eux. Et Batman... C'est un assassinat qui crée le traumatisme, c'est-à-dire quelque chose de social et d'ancré dans la réalité de la vie courante. Est-ce que ça en fait un super-héros moins fantasmagorique que les autres?
Alors, moins fantasmagorique, certainement, parce que, oui, ça démarre par un drame du quotidien. Et aussi parce que, généralement, chez les autres super-héros, ce drame est accompagné de l'obtention de pouvoir. Batman, son seul super-pouvoir, c'est le désir de vengeance.
Alors, une chose assez frappante, c'est que il a été créé par des gens de 20 ans. À l'époque où ils ont créé leur personnage, Kane et Fincher avaient 20 ans. Et 20 ans, ça n'est pas, à mon avis, un âge où on peut créer un grand personnage de roman compliqué avec toutes ses nuances comme Vautrin. Mais on peut créer des personnages probablement simplifiés, comme les super-héros ou les personnages de théâtre. Les dramaturges peuvent être parfois assez jeunes. Parce que c'est des personnages, voilà... Assez simple.
Ah oui, c'est un personnage très très simple. Batman du début, on sait très peu de choses. C'est une idée graphique, quelques grandes lignes, et c'est jeté comme ça. À l'époque, beaucoup de nouveaux super-héros sont apparus. DC Comics, donc l'éditeur, qui est un jeune éditeur hein, d'ailleurs, qui est une maison qui date de 1935.
Ça veut dire quoi, DC Comics?
DC Comics, c'est un peu idiot, c'est Detective Comics au début. Qui devient DC et qui redevient DC Comics. C'est le premier éditeur à avoir publié une revue de bande dessinée entièrement inédite, qui ne reprenait pas des strips. Et donc DC Comics, après le succès de Superman, a essayé pas mal de choses. Et Batman, ça a marché tout de suite, quoi.
Alors, une autre chose notable, c'est que ce personnage, mais je l'ai dit dans mon introduction, plusieurs autres, tout à fait à la même période, ont été créés à la fin des années 30. Un peu comme si la crise économique de 29 venait de passer, ça se tempérait, mais que aussi, d'une certaine façon, il fallait rassurer une Amérique isolationniste sur sa puissance rêvée. Elle allait gagner, mais il fallait surtout pas aller se mêler des vrais grands méchants qui étaient Mussolini, Hitler, Franco et les autres.
Les super-héros vont se mêler de ça, mais doucement. Mais c'est vrai qu'au début, il y a une espèce d'affirmation, oui, de la grandeur et du rêve américain à travers ces personnages de surhomme. Ce qui est très troublant, c'est que Bob Kane, Bill Finger, je ne sais pas, mais Bob Kane, c'est sûr, et les créateurs de Superman, les créateurs de Captain America sont tous des fils d'émigrés juifs d'Europe de l'Est. Tous vivent du côté de New York, sont des gamins de banlieue qui vont transcender une espèce, oui, de rêve américain à travers ces personnages de surhomme.
Oui, et c'est frappant ce que vous dites, car les propriétaires de DC Comics étaient juifs aussi.
Oui, et les éditeurs aussi.
Les éditeurs aussi. Et au fond, je me demande si ça n'est pas rapproché de, sans chercher à surinterpréter, mais de tout simplement de Hollywood, qui était aussi peuplé de juifs. Mais ils étaient là parce que les autres secteurs de l'économie, dans une Amérique encore très antisémite, leur étaient fermés. Et ils sont allés là aussi où ils pouvaient aller, non? Et puis,
oui, tout à fait.
Avec une espèce de désir d'intégration, de devenir plus américain que des Américains, en créant des personnages ultra-américains.
C'est ça, en surjouant, en fait, l'américanité. Captain America, pour ça, c'est extraordinaire. Je veux dire, il porte le nom, il porte le drapeau sur lui. C'est une forme d'absolu, de patriotisme.
Vous disiez que les super-héros sont parfois mêlés des affaires du monde. Est-ce que c'est arrivé à Batman?
Batman, beaucoup moins. Superman, oui.
Est-ce qu'il s'est engagé pendant la guerre?
Non, pas à ma connaissance. C'est arrivé à Superman, Captain America, évidemment, les héros de Marvel. Marvel, qui est la grande maison d'édition concurrente de DC Comics. Les héros de Marvel ont vraiment participé à l'effort de guerre. Batman, moins, parce que d'abord, il est vraiment ancré dans une ville. L'univers de Batman, c'est Gotham City. C'est sa métropole. Et puis c'est un héros de la nuit qui combat le crime, essentiellement. Il a un registre assez limité de ce point de vue-là.
D'ailleurs, le fait que ce soit Gotham City et que ce soit une ville, en me faisant un peu l'avocat du diable, on pourrait dire que ça correspond à une idée proto-fasciste de cette époque-là où les villes étaient impures. Et où d'ailleurs, ces personnages, et en particulier Batman, qui, comme je l'ai dit, est noir, comme vous le rappelez, est une chauve-souris, etc., a l'air de répondre à une espèce d'idée irénique de l'Amérique qui est diffusée dans la peinture très très populaire à cette époque-là. Et je pense par exemple à American Gothic, vous savez, le fameux tableau dont on a parlé d'ailleurs dans Secret Professionnel il y a quelques années, le tableau de Grant Wood, qui idéalise une Amérique rurale et paysanne. Et eux, tout d'un coup, la ville, c'est méchant, c'est pas bien, il y a des meurtres, des assassinats.
Ah oui, Gotham City, c'est l'archétype de la ville dangereuse, de la ville inquiétante, où effectivement, on a besoin de quelqu'un pour protéger les innocents.
Alors, cette idée de protection des innocents que met en pratique Batman, c'est un peu curieux parce qu'on ne sait pas si la violence est recommandée par les créateurs ou au contraire combattu. Et peut-être que j'ai tort de poser la question, mais il y a aussi le fait que Batman, comme sauf erreur tous les autres, est masqué et costumé. Comme si ce masque et ce costume servaient à rendre la violence possible et à la légitimer.
Alors, Batman est assez ambigu de ce point de vue-là. Il ne porte pas d'armes, mais comme vous le disiez au début, il tue assez volontiers. Bon, c'est passé ensuite, hein, parce que c'était plus possible. Dans les années, à la fin des années 50, les super-héros ne pouvaient plus tuer. Oui, il y a vraiment une ambivalence là-dedans, de violence légitime et en même temps accomplie par quelqu'un qui effectivement n'est pas la police, n'est pas la justice, et qui va comme ça, en quelque sorte, cristalliser la violence de la ville.
Il est habillé en noir. Ça se passe la nuit. Il travaille dans la Batcave, qui est dans un sous-sol. Tout ça, c'est noir, c'est en sous-sol. Est-ce que c'est un univers et est-ce que c'est un héros, un super-héros paranoïaque?
Ah oui, complètement. Batman, pour moi, se trouve vraiment sur le fil de la folie.
Il y a une chose très intéressante dans Batman, c'est qu'il est riche. C'est un fils de millionnaire, il est lui-même millionnaire, etc. Est-ce que tout ça... Et un millionnaire révolté contre l'ordre établi, c'est assez rare. Est-ce qu'un millionnaire justicier, c'est pas ça aussi un moyen de flatter une idée une espèce de candeur américaine vis-à-vis de l'argent.
Certainement, parce que alors, la question de l'argent ne se pose pratiquement jamais. Batman est riche, ce qui lui permet donc de se payer tous les gadgets technologiques qu'il veut. Alors le personnage de Bruce Wayne, donc le milliardaire, est plutôt falot. C'est pas un flambeur, c'est pas un mania, c'est un héritier simplement. Et il n'est pas du tout flamboyant.
Nous allons entendre Bat Dance de Prince. La chanson se trouve dans l'album Batman de 1989 qui rassemble la musique originale du film Batman de Tim Burton. Notons que dans le clip, Prince était habillé et maquillé mi-parti, d'un côté Batman, de l'autre Joker, et c'est probablement le seul à avoir fait ça.
Oh, I got a live one here.
Rudy Spicer, dans la première partie de ce personnage en personne, vous avez eu une expression frappante. Vous avez dit « Batman, c'est une idée graphique ». Et j'aimerais savoir dans quelle mesure, selon vous, et puis vous aussi, vous dessinez des personnages, dans quelle mesure l'esthétique, à elle seule, peut créer le personnage. Dans quelle mesure ça influe sur le personnage. Est-ce qu'on lui crée des aventures pour qu'il ait des jolies postures?
Ah oui, oui, Batman, c'est un plaisir de dessinateur. Batman dans Gotham City, c'est une espèce de merveille gothique. On a envie de jouer avec le noir, on a envie de jouer avec le clair-obscur. Je pense que c'est pour ça que c'est un des personnages qui fait fantasmer tous les dessinateurs.
Il n'y a aucune aventure de Batman le jour.
Ça peut arriver, surtout dans la période, dans les années 60, dans la période la plus potache, on va dire. On est revenu à un personnage beaucoup plus sombre depuis les années 70.
Et d'ailleurs, les films récents ont assez accentué, il me semble, ce côté...
Oui, oui, oui. La trilogie de Christopher Nolan, notamment, qui est très ancrée dans le réel, pas très bonne, à mon sens. Je trouve qu'il est un peu passé à côté du côté fantasmatique du personnage, en faisant une sorte de super James Bond. De ce point de vue-là, Tim Burton, pour moi, avait vraiment bien mieux traduit le mélange de bizarrerie, d'absurde du Batman des origines.
D'autres super-héros créés par d'autres dessinateurs travaillent parfois avec Batman. C'est un peu comme si un personnage de Balzac rencontrait un personnage de Musset, ce qui devrait d'ailleurs pouvoir se faire dans un monde idéal. Et ce qui le permet ici, c'est pas un monde idéal du tout, c'est tout au contraire un monde capitaliste et très pratique qui fait que les producteurs peuvent décider de tout et peuvent dire en mélangeant les personnages. En France, ça serait pas possible.
Mais non, parce que là-bas, l'auteur n'a pas la main sur ses personnages. Ce sont les éditeurs qui sont propriétaires des personnages et qui donc décident que oui, commercialement, ce serait sympa qu'ils fassent équipe avec Wonder Woman et Superman parce que les ventes sont un petit peu en baisse à ce moment-là.
Mais les équipes marchent pas très bien, j'ai l'impression, non? Batman et Superman, ça va pas ensemble.
Alors, Batman est toujours un petit peu en dehors. Il participe à ce que DC appelle la Ligue de Justice. C'est assez martial aussi, hein, d'ailleurs, comme intitulé. On n'est pas dans une sensibilité de gauche, hein, dans l'ensemble.
Non.
La Ligue de Justice, où il y a Superman et Wonder Woman notamment, Batman est toujours légèrement en dehors parce que, malgré tout, c'est un franc-tireur.
Est-ce que Batman est misogyne? Il travaille beaucoup avec des hommes, il se bat contre des hommes, il y a Catwoman qui est ravissante, mais on ne sait pas bien ce qu'elle vient faire là.
Ah, il a une histoire avec Catwoman, hein, à plusieurs reprises. Hein. Enfin, à partir des années 70, quand ça a été possible.
Ah.
Oui, oui, oui.
Mais ils n'ont pas d'enfant.
Non, il n'a pas d'enfant avec elle. Il a un enfant plus tard. Misogyne, je sais pas.
Non, c'est une simple question.
Je crois pas que ce soit le personnage de super-héros le plus caractéristique de la misogynie, je pense pas. Il est surtout schizophrène, en fait, hein. Donc, ça laisse.
En dehors de l'idée de son double très apparent, mais.
C'est quand même. Il joue en permanence. C'est-à-dire que le personnage de Bruce Wayne n'existe que comme couverture de Batman.
C'est ça qui est intéressant, figurez-vous.
C'est-à-dire qu'il disparaît. Oui, il disparaît complètement derrière la créature qui s'est inventée.
C'est ça qui est intéressant, car Clark Kent existe vraiment dans Superman. Clark Kent, il est là, on le voit dans sa vie courante, etc. Et Batman est un des seuls, peut-être le seul, je ne sais pas, où tout d'un coup, le personnage de la vie dite réelle, au fond, a moins d'importance. Et sert à peine de faire valoir à la création qu'il a, à la création de lui-même. Et ça, c'est une idée assez belle, je trouve.
Oui, c'est une idée assez belle et qui, encore une fois, l'emmène vraiment du côté de la folie. Parce que même Peter Parker, Spider-Man, par exemple, sa vie de tous les jours a autant d'importance dans les histoires, ses amours, ses problèmes d'argent ont autant d'importance dans l'histoire que les aventures de Spider-Man. Chez Batman, c'est vraiment pas le cas. Le personnage du quotidien a été complètement mangé par la créature inventée.
Alors, on va en venir à un point très important chez les amateurs de comics, c'est un affreux de la vraie vie, qui est un psychiatre qui s'appelle Frédéric Wertham. Et ce monsieur Wertham, dans un livre qui s'appelait La séduction de l'innocent, 1954, accusé les personnages de comics de dépraver la jeunesse. Il avait noté que les délinquants qu'il traitait lisaient les comics avec avidité, ce qui est une idée stupide, parce que d'abord, on donnait probablement pas Tolstoï à lire dans les bibliothèques des prisons. D'autre part, ils étaient délinquants avant. Et enfin, la société fournit un beaucoup plus grand nombre de modèles positifs que négatifs.
Oui, puis par ailleurs, en fait, tous les enfants lisaient des comics à l'époque, ce qui est peut-être le biais statistique auquel il n'avait pas pensé. C'est vrai qu'il a lancé une croisade qui a eu beaucoup de retentissement aux États-Unis. On a vu beaucoup d'autodafés de comics qui étaient organisés par les bons samaritains de la paroisse pour sauver les âmes des jeunes enfants. Et ça a débouché sur la création de ce code de bonne conduite.
En 1954, ouais, le Comics Code.
Qui interdisait beaucoup de choses, qui imposait que le bien triomphe finalement, et qui était en vigueur pendant de longues années, jusqu'au début des années 70.
Alors, le cinéma de Hollywood avait fait ça avec le code Hayes, en 1930, et qui avait vu tout d'un coup une diminution de la liberté de parole dans les films assez considérable. Ouais. Est-ce que ça s'est produit de la même façon avec les comics et Batman en particulier?
Alors, Batman comme les autres, oui, vraiment, parce que le Batman de la fin des années 50 et des années 60 est assez gentillé, il évolue dans un monde de science-fiction absurde, d'humour un peu potache, mais alors, la créature de la nuit est complètement passée à la trappe, parce qu'en plus Batman a ce côté un peu horrifique qui était radicalement interdit par le Comics Code, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas faire référence aux vampires et aux créatures, aux zombies et aux créatures du monde de l'horreur. Jusqu'à la fin des années 60 et au début des années 70, on a réautorisé par exemple les vampires, à condition que ce soit Dracula, parce que ça venait de la littérature classique.
Alors, il faut dire, je pense que je vais recevoir beaucoup de mails des amateurs de comics, mais que le puritanisme dans son intransigeance peut avoir des effets heureux, car ce même Wertham, le psychiatre dont on parle, qui était psychiatre en chef des hôpitaux de New York, a publié dans une revue savante un article sur les effets psychologiques de la ségrégation dans les écoles, et c'est en se fondant sur cet article en partie, qui est devenu une pièce juridique importante, qui a permis à la Cour constitutionnelle, à la Cour suprême, de déclarer la ségrégation inconstitutionnelle.
Il s'est bien racheté.
En quoi est-ce que Batman est-il spécifiquement américain, à part le fait qu'il a été produit aux États-Unis? Parce que les super-héros, il y en a dans les autres pays, mais somme toute très peu.
Oui, il est très américain dans le sens qu'il est l'héritier de... À la fois, il se situe dans le monde des super-héros, mais il est l'héritier des justiciers masqués. Des justiciers masqués tels que Zorro, The Lone Ranger, The Shadow, qui sont vraiment des personnages très, très américains. qui sont des The Shadow aussi est un comment dire est né de la ville, de la grande ville, de la métropole américaine inquiétante, qui a besoin qui fait naître en fait le justicier.
En fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a une panique de la ville.
Ah oui, vraiment, oui. Gotham City, de ce point de vue-là, est pareil, c'est un bonheur à dessiner parce que c'est une espèce de ville tentaculaire, gothique, inquiétante, très noire.
Et oui, c'est ça. C'est un poète américain disait que les Américains avaient remplacé l'histoire par la géographie, qui est une grande idée, je pense. Et évidemment, c'est un continent très très grand et les villes sont beaucoup moins nombreuses et donc c'est un pays de prairies, de campagnes et de montagnes, et tout d'un coup, les villes les inquiètent.
Oui, c'est ça. C'est une espèce d'île d'inquiétude.
En même temps, peut-on dire que les super-héros, dont on a fait pas mal de critiques jusqu'à présent, ne sont pas un produit spécifique des sociétés démocratiques? En 1939, l'année où Batman a été créé, je pense qu'il aurait été impossible en Allemagne de créer un personnage de super-héros, parce que le seul super-héros possible, c'était Adolf Hitler.
Oui, et puis parce que ça implique aussi qu'on glorifie un individu. Le super-héros est extrêmement individualiste, même si de temps en temps il y a des ligues de justice. Ce sont vraiment des personnages qui agissent seuls.
Comment est-ce que le personnage a évolué, s'il a réellement évolué? Vous parliez de l'époque des années 70 où il était devenu un peu 60, pardon, où il était devenu un peu potache. Est-ce qu'il a été démodé à un moment donné? Est-ce qu'il est revenu? Est-ce qu'il a fondamentalement changé?
Au début des années 80, Batman est un peu un héros du passé qui a été dépassé par des personnages plus violents, plus contemporains, comme The Punisher, par exemple, qui est aussi une espèce de vigile ultra-violent. Et c'est vraiment Frank Miller qui l'a remis au goût du jour avec une version alors extrêmement violente et noire dans un Gotham dystopique des États-Unis du futur un peu post-apocalyptique. Et c'était vraiment une réinvention du personnage.
Il me semble qu'un personnage est d'autant plus fort qu'il intègre lui-même la parodie et la contestation. Et est-ce que les gens qui ont dessiné Batman se sont sentis assez forts ou ont senti Batman assez fort pour créer une comédie de leur personnage, un peu comme Pixar a pu faire avec les Indestructibles, par exemple, et Superman? Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est possible ou est-ce que l'humour détruirait le super-héros immédiatement?
Alors non, Batman a survécu à l'humour. Hein. Il y a toute une période où on est pratiquement dans l'autoparodie, c'est-à-dire que Batman se retrouve aux prises avec un lutin venu d'une autre dimension qui se déguise en Batman et qui fait n'importe quoi. Non, ça c'est tout à fait possible. C'est-à-dire c'est la richesse des super-héros américains, c'est de pouvoir survivre à toutes sortes d'adaptations. Très rapidement, par exemple, il y a eu une comédie musicale sur glace, il y a eu un Batman on Ice en 42, peut-être le personnage existait depuis 3 ans. Bon, c'est pas un problème.
Rudy Spicert, que vous a appris le personnage de Batman?
Alors, dans la vie de tous les jours, pas grand-chose, parce que je pense qu'il serait pas très sain de s'inspirer d'un type qui se déguise en mammifère volant. En revanche, pour ce qui est de l'écriture des personnages, ce que je trouve très intéressant, ce que je trouvais très intéressant, sans le savoir étant petit déjà, en lisant ses aventures, et ce que j'ai compris plus tard en tant qu'auteur, c'est que ce qui m'intéresse chez lui, c'est toute la part d'implicite, toute la part de non-dit. On ne sait pas pourquoi il fait ça. Ça laisse une marge d'imagination.
C'était Personnage en personne, le 32e. La semaine prochaine, je parlerai du personnage non plus de super-héros mais d'anti-héros, Sicard, créé par Richard Brautigan dans son roman Un privé à Babylone.
Comme si j'étais assis.
Réalisation Clotilde Pivin, attaché de recherche et de documentation Daphné Abgral, prise de son Renaud Fluzin. Dans un instant, une saison au théâtre avec Joël Gaillot.
Le paradis acquis. C'était un grand jeu.